R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Bon, ben bonjour. bonjour Sylvain, ça va? Voilà, donc on propose à nos partenaires, en fait, rennais, aux gens qu'on rencontre, un peu de se présenter. On fait un peu une espèce de tour des lieux, des espaces et des pratiques qui se développent à Rennes et qui nous intéressent en ce moment. Donc aujourd'hui, là, c'est maintenant, on arrive aux éditions du commun. Donc on est au quartier du Blône. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus déjà sur l'endroit où on est? Et puis après, progressivement, sur aussi l'histoire, l'activité, le présent et les perspectives des éditions du commun.
Eh bien, nous, les éditions du commun, on est en effet implanté au Blône depuis maintenant 2 ans. Donc, c'est un territoire qui nous plaît beaucoup, dans lequel on a voulu s'ancrer aussi volontairement, et on est vraiment en lien avec pas mal de structures. On est en lien notamment avec l'Établi des mots, qui a été une librairie qui vient d'être créée et à laquelle, enfin, nous avons participé à la création de cette librairie. Donc, une librairie en coopérative. En SIC. On travaille également, nous, sous forme de prestations, mais avec différentes associations, différentes structures du quartier, sur de l'accompagnement à l'écriture, de l'accompagnement éditorial. Notre but, nous, l'édition du commun, c'est de multiplier les formes. On considère qu'il y a vraiment plusieurs manières de venir diffuser des textes. C'est à la fois par l'écrit, par la forme du livre, mais aussi par l'accompagnement à l'écriture, des ateliers, de l'échange de savoir, vraiment assez ancré éducation populaire finalement. Et puis également à l'oral, c'est-à-dire avec des podcasts. Et on a notamment un lien avec la radio associative Quartier des Ondes, qui est juste à côté de chez nous, Square de Galicie également. Et donc on a un podcast, première saison La mécanique du livre, et la deuxième saison Les mécaniques du livre, où là on vient travailler sur les coulisses du monde du livre. Alors pourquoi on vient travailler cette question-là? C'est parce que donc nous, notre maison d'édition, elle a 5 ans aujourd'hui, 6 ans même en fait, ça fait 6 ans. Et depuis le départ, on a toujours voulu lier le fond et la forme. C'est-à-dire on considère qu'on édite des livres de critique sociale et politique, des livres quand même relativement engagés. Et pour nous, ça n'a pas vraiment de sens si les livres qu'on édite, la manière dont on le fait, ne change pas par rapport à des maisons d'édition peut-être un peu plus importantes, qui ont des pratiques qu'on considère en tout cas comme parfois problématiques, d'un point de vue écologique, mais sur plein d'autres plans. Et donc nous, le fond et la forme, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc ça va passer à la fois par le diffuseur qu'on choisit, par l'imprimeur qu'on va choisir, mais aussi sur la manière dont on va, comment dire, rémunérer nos auteurs, les réflexions qu'on va porter dessus, le statut juridique dans lequel on s'inscrit. On passe en coopérative, par exemple, à la fin de l'année, normalement fin de l'année ou début d'année prochaine. Voilà, donc il y a tout un tas de questions comme ça qui nous traversent et traversent aussi le monde du livre, la manière d'accompagner les auteuristes, etc. Et donc pour nous, ça a été vraiment essentiel de parler de ça, d'évoquer ces sujets pour que d'autres maisons d'édition puissent s'en emparer, mais aussi pour pouvoir échanger avec elles. Et donc la première saison de ce podcast portait justement sur les coulisses du monde du livre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière en fait un livre, comment on le fabrique, comment toutes les étapes. Et la deuxième saison, il s'agissait plutôt de mettre au débat des sujets brûlants, ou pas forcément brûlants, mais en tout cas des sujets d'actualité, des sujets qui concernent vraiment le monde du livre, l'écologie, la diffusion, notamment. Voilà, nous, on ne vend pas nos livres sur Amazon, par exemple, avec plusieurs autres maisons d'édition qui font partie de notre... Enfin, qui sont dans le catalogue de notre diffuseur. On a décidé de signer en fait, un texte ensemble, une tribune, et de retirer nos livres en fait de la vente d'Amazon. Et donc c'est parti d'un engagement. Donc on parle de sujets là, mais aussi du féminisme dans l'édition. Qu'est-ce que ça veut dire du féminisme dans l'édition? Des luttes. Comment retranscrire aujourd'hui les luttes? Voilà. Et donc peut-être pour resituer sur la maison d'édition et sur les textes qu'on édite, on a aujourd'hui 2 collections et 2 séries. en gros, une collection culture des précédents qui s'articule autour de textes qui, où l'idée c'est vraiment de faire redescendre l'histoire de sa majuscule en gros et de venir parler des initiatives collectives, de la manière dont aussi on peut faire trace de ces initiatives collectives pour justement comment dire, outiller des luttes ou des projets collectifs. On a également une collection littéraire, la collection des réels, donc où on édite des textes écrits à la première personne par des... Voilà, ça peut traiter de sujets qui sont liés au travail. On a beaucoup de textes dessus qui sont liés au travail, mais pas uniquement. En tout cas, voilà, c'est du texte littéraire brut avec une écriture souvent assez forte de récits individuels. Et une série de sciences sociales et essais, où là, ce sont des sujets d'actualité ou de fond, en tout cas, qui traversent notre société aujourd'hui et qu'on vient mettre au débat par une vulgarisation de qualité. Et une série de petits manuels 2, où là, ce sont des professionnels, des spécialistes d'un sujet qui viennent faire un pas de côté par rapport à leur pratique pour pouvoir la mettre un peu, avoir un regard critique sur elle, tout en faisant le récit de leur propre pratique. Donc ça, c'est une série qui est assez chouette et qui est assez originale aussi dans sa manière d'approcher en fait certains milieux professionnels. Voilà en gros pour définir notre maison d'édition.
Et du coup, si tu parles de son actualité, on était tout à l'heure avec Aurélia à Déconstruire qui a sorti 3 livres de sa bibliothèque. Pour un éditeur, c'est toujours délicat d'extraire des titres plutôt que d'autres. Mais peut-être, est-ce que tu peux nous traverser peut-être en 3 titres récents le moment présent d'Histoire du commun, partant du principe que il y a beaucoup d'autres livres et que je sais que c'est délicat pour un éditeur d'en extraire plutôt certains que d'autres, mais de peut-être parler de où on est la maison d'édition aujourd'hui à travers peut-être un choix de 2 ou 3 titres.
Alors en effet, c'est pas simple, et en plus je pense que si c'est quelqu'un d'autre de la maison d'édition, ce sera un autre choix. Donc c'est vraiment le choix de moi, Sylvain Bertrand, aux éditions du commun. Après ça va, c'est plus simple de choisir 3 titres que 1. L'autre jour on m'a demandé un titre et là c'était vraiment dur. Je pense que je choisirais quand même Joie militante, qui est paru au début d'année, parce que c'est un livre qui a été coup de cœur, donc qui a été traduit, parce que c'est une traduction de Juliette Rousseau, qui est aujourd'hui qui fait partie du comité éditorial des éditions du commun également, et c'est un livre qui est paru aux États-Unis et de Carla Bergman et Nick Montgomery, et qui traite en fait de la joie dans les mouvements de lutte à travers une série d'entretiens réalisé auprès de divers mouvements de lutte queer, autonomes, écologistes, les luttes de la résurgence autochtone aussi dans le nord-ouest canadien, lutte féministe, je ne sais plus si je l'ai dit. Et donc voilà, et en fait c'est à travers toutes ces luttes, ils viennent définir, avec une approche de la joie au sens spinoziste du terme. Donc une joie un peu particulière qui c'est pas le bonheur qui est un concept lui plus capitaliste sur lequel justement il y a une recherche un peu vaine et un peu idéalisée. La joie, c'est vraiment un concept tel qu'en tout cas Spinoza le définit et repris justement dans certains courants militants. C'est vraiment un concept qui peut être traversé par de la tristesse aussi, par plein d'autres émotions, mais qui vient vraiment construire c'est un chemin en fait, et qui est en ça assez important. Et dans ce livre, ils essayent de venir déconstruire aussi le radicalisme rigide qui parfois peut vider de toute substance en fait certains mouvements de lutte, et ce qui est assez fort dans ce livre, c'est qu'il n'est pas c'est pas une critique un peu trop facile du radicalisme rigide. Il y a vraiment cette idée que tout le monde en fait peut-être peut porter en soi le radicalisme rigide. C'est pas un courant qui le personnifie ou une personne, ou vraiment tout le monde peut le porter en soi. Et donc c'est comment on arrive à le reconnaître et comment on arrive à remettre de la joie dans ces mouvements de lutte, justement aussi pour que ça puisse fonctionner en fait, que ces luttes puissent aboutir aussi. Et donc ça, c'est un livre qu'on a tous trouvé très fort et qu'on porte avec joie, justement. L'autre livre, donc si vraiment je prends cette année, L'autre livre qui pour moi est important, ça va être très dur, c'est quand même « Où sont les gens du voyage ?» qui a été un gros travail réalisé par William Acker, qui a fait un recensement exhaustif de toutes les aires d'accueil des gens du voyage sur tout le territoire français, et qui a, à partir de ça, établi en fait une véritable géographie critique d'un vrai racisme environnemental qui s'est construit depuis plus de 100 ans, et avec tout un appareil critique qui vient justement aussi à la fois historique, sociologique, qui vient montrer aussi comment on en est arrivé à ce racisme en fait vraiment ancré à la fois institutionnellement mais aussi dans les mentalités. Et donc le livre est divisé en deux, un appareil critique sur une première partie et l'inventaire exhaustif de l'autre dans l'autre partie. Et c'est un travail qui est monumental, qui est utile, qui est très riche, et donc c'est un très très beau livre. Et le troisième, j'hésite entre plusieurs, mais j'aurais envie de citer le petit manuel critique d'éducation média, j'aurais envie de citer Se faire virer, du coup je les cite exprès sur les derniers. Mais voilà, je parlerai du recueil à punchline parce que c'est quand même un bouquin qui est un peu original, enfin original dans le sens où il ressemble pas forcément aux autres livres qu'on a pu éditer. Et là, c'est un travail en plus collectif qui a été fait avec... notamment l'association Demos à mots, qui fait des ateliers d'écriture, notamment autour du rap, des cultures urbaines, et qui a un studio d'enregistrement, le Bloc. Donc, et on a travaillé avec eux et avec plein de personnes différentes qui se sont réunies pendant plus d'une année pour venir à la fois travailler sur l'idée de ce qu'est une punchline, puis recueillir plusieurs punchlines pour en faire un recueil avec 600 punchlines. Alors là, on le réédite puisque le livre est épuisé, mais 700 punchlines des rap francophones, parce qu'on parle des rap, parce qu'on considère qu'il y a vraiment plusieurs genres de rap depuis les 30 dernières années. Et donc, on a 600 punchlines sur la première version, 700 avec la réédition. Les punchlines se suivent comme un recueil de poésie, sans explication, sans rien, sans les artistes associés. Et c'est vraiment à la toute fin du livre qu'il y a un index qui dit telle page, il y a tel artiste sur telle punchline. Donc ça peut, en fait, on peut utiliser le livre un peu comme un jeu. Un peu en mode quiz, et puis en même temps c'est aussi pour permettre de lire ces punchlines, pour montrer à quel point le rap est riche aussi et que l'écriture est importante. Et donc ça, c'est un livre qui pour nous a pas mal de sens. On est déjà très amateur de rap, et puis en plus c'était une belle manière de rendre hommage aussi à ce genre musical qui est souvent décrié, souvent même si c'est aujourd'hui le genre le plus écouté, ça reste toujours un genre musical qui est quand même relativement méprisé par une certaine classe politique et médiatique. Et donc voilà, pour nous c'était assez cohérent d'en faire un livre et un beau livre, quoi.
Alors, je voulais te poser peut-être une autre question avant de parler peut-être de bilan et puis d'actualité prospective pour les éditions du commun. C'est votre inscription dans le paysage de l'édition à Rennes et au-delà en Bretagne. Est-ce que voilà, l'édition du commun avec qui vous êtes en rapport, comment vous regardez le paysage, si on le regarde vraiment volontairement, même si on sait que c'est un paysage qui est national et international pour vos livres, si on se revient à cette dimension, parce que c'est une petite émission qu'on fait sur un Bienvenue à Rennes, voilà, dans le paysage rennais de l'édition et dans le paysage breton, comment vous vous situez, comment vous le regardez, comment vous alliez, comment peut-être vous voyez aussi des manques et des choses qu'il n'y a pas, et peut-être que vous êtes venu combler ou qu'il faudrait combler encore aujourd'hui.
Alors, uniquement éditorial. Donc dans le paysage éditorial, alors nous depuis la création des éditions du commun, on est en lien avec la Rennaise d'édition, qui est une association en fait qui réunit les éditeurs, les maisons d'édition rennaises, parce qu'il y a quand même pas mal de maisons d'édition à Rennes, et donc ce regroupement de maisons d'édition a pour objectif notamment de faciliter lors de déplacements pour aller dans des salons, faciliter notamment l'achat de tables, parce que ça coûte un petit peu cher, et de le faire, de mutualiser avec d'autres maisons d'édition. Et il y avait également, on a organisé les premières années un salon, les Panama Papiers, au Bar Le Panama, donc un petit salon des éditeurs indépendants rennais. En tranchiste, c'est vrai que ça a été utile et c'est important. On reste en lien, on reste connecté à ce réseau-là. Pour autant, c'est vrai qu'il y a peut-être eu un petit mou récemment et en particulier aussi de notre côté avec la charge de travail, avec tout ce qui peut se passer. Hein, mais on reste toujours connecté à ça. Et là, il y a l'association des maisons d'édition de Bretagne, l'AMEB, qui vient d'être créée et qui réunit les maisons d'édition bretonnes. Aujourd'hui, le réseau existe. Après, les liens et les connexions qui se font sont peut-être pas encore tout à fait évidentes. Il y a des maisons d'édition, je pense, pour lesquelles les liens sont peut-être plus évidents parce qu'il y a un rapport direct au territoire. Maisons d'édition, par exemple, bretonnantes ou qui ont un objectif vraiment qui vise un public vraiment breton parce que les thématiques qu'ils abordent sont bretons. Ça a du sens. Nous, notre territoire, c'est ce que je dis souvent, notre territoire, il est quand même politique. Et donc, du coup, il n'est pas forcément lié à un territoire géographique. Donc, c'est pas forcément aussi simple. Mais on garde toujours cette idée de rester quand même ancré. Et en particulier, nous, avec le quartier dans lequel on s'inscrit, qui nous paraît important. Et après, si je peux juste me permettre, on fait partie d'un autre réseau qui s'appelle l'Association pour l'écologie du livre et qui, lui, nous paraît aussi vraiment important parce qu'il a pour vocation justement d'essayer de venir travailler des sujets sur l'écologie du livre qui ne sont pas forcément toujours connus et pas toujours très simples et de mettre en relation des éditeurs, des diffuseurs, des libraires, des auteuristes, etc. pour justement venir créer du lien entre tous ces acteurs et toutes ces actrices et essayer de trouver des solutions pour rendre le livre plus écologique.
Oui, et pour finir, je voudrais poser un peu la question des perspectives, parce que l'édition du commun ont 6 ans, l'éditeur s'est quand même assez développé ces dernières années. Voilà, quelles sont les questions en termes, je dirais, structurels? Tu parlais de la transformation de la maison d'édition en coopérative. Quelles sont un peu les perspectives autant en évolution en termes structurels qu'aussi en développement du catalogue? Je crois que vous voulez aussi développer de nouvelles collections. C'est quoi les nouvelles directions un peu qui vous habitent en ce moment?
Eh bien, donc oui, en effet, c'est vrai que le point essentiel, c'est quand même en effet le passage en SCOP à la fin de l'année. Et on a également cette volonté. Alors, on passe aujourd'hui à. On va être 4 salariés quand même à partir du mois de septembre. 4 salariés donc aux éditions du commun, donc ce qui est quand même plutôt intéressant. Et donc, ça nous permet aussi, nous, de travailler notre catalogue différemment. Et donc, on prévoit de passer jusqu'à entre 10 et 12 ouvrages par an. En fait, on s'est toujours fixé une limite à 12. On ne veut pas dépasser ce cap-là parce qu'on considère que ce n'est pas viable non plus écologiquement. C'est-à-dire qu'on trouve qu'il y a une nécessité à limiter ces tirages et son nombre de publications annuellement. Donc ça, c'est une limite que nous, on se donne en tout cas. Mais par contre, on était aujourd'hui plutôt à entre 6 et 8. Donc on va quand même augmenter de 4 bouquins probablement notre catalogue à l'année. Et donc en continuant sur les 4, les 2 collections et 2 séries que j'ai citées, plus on est en train de créer une collection de poésie que Juliette Rousseau va diriger. Et où là, on attend en effet beaucoup de choses. Alors, c'est que le début. Nos textes ne sont même pas encore reçus. Donc, c'est encore assez tôt pour en parler plus précisément. Mais ce serait on souhaite faire une belle collection de poésie, vraiment, comment dire, je dirais plus contemporaine, plus d'actualité aussi, et relativement engagée en tout cas dans sa forme et dans dans sa manière d'être dans son style, quoi.
Voilà. Et du coup, c'est pas très commun, excuse-moi le jeu de mots, mais c'est pas très commun en fait dans un champ éditorial d'être plutôt un éditeur de sens social ou de texte d'intervention. que d'ouvrir une collection de poésie. Alors, c'est d'où vient cette impulsion? Parce que voilà, bon, on a le droit de faire les choix qu'on veut, mais en tout cas, c'est une surprise qui est, moi, qui m'intéresse. Mais j'aimerais en savoir un peu plus sur ce qui mène un éditeur qui a vraiment une position maintenant aujourd'hui assez identifiée sur, on va dire, les sciences sociales, la recherche-action, les textes d'intervention. Voilà, pourquoi la poésie du coup?
Eh ben, parce qu'on considère, alors un peu comme les récits, je dirais, même si ce sont deux choses différentes, mais que il y a la forme poétique peut vraiment amener à mettre, comment dire, à parler de sujets politiques aussi et de sujets et d'une manière complètement différente, mais en donnant une autre approche et donc en donnant aussi avec une autre sensibilité, en venant chercher, creuser d'autres possibles en fait. Et donc pour moi et pour nous, c'est assez complémentaire finalement d'avoir au sein de d'une maison d'édition des récits du réel, de la poésie et des essais, et qu'il y a ici une sorte de triptyque qui est assez cohérent et qui peut venir mettre au débat, en critique et en perspective pas mal de sujets aujourd'hui qui nous intéressent.
Je voulais finir sur un petit élément du modèle. Je crois que vous étiez en tout cas jusqu'à l'an passé assez structuré autour d'une campagne en fait de préachat de vos ouvrages en fait qui fait partie un peu de l'originalité de votre modèle économique. Tu peux m'en parler un peu plus?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, on fonctionne avec un abonnement un peu sur le principe d'une AMAP. Donc, l'AMAP, c'est les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, où les consommateurs, en fait, achètent directement aux producteurs. Et ça permet aux producteurs de savoir aussi, par le principe d'un abonnement, de savoir à l'année combien il va vendre de légumes et ce qui va rentrer comme argent. Donc, c'est une sécurité, en fait, pour l'agriculteur. Et donc, nous, on a un abonnement qui fonctionne sur le même principe. Donc, chaque année, au mois de décembre, entre le 1er décembre et fin janvier, on propose alors deux ou trois abonnements à des tarifs différents avec l'ensemble du catalogue à venir pour l'année qui suit, et plus des petits cadeaux, des petites choses, voilà. Et il y a un abonnement avec tous les livres de l'année et un abonnement avec tous les livres de l'année plus des livres du fonds qu'on remet un peu au goût du jour, et donc les personnes peuvent s'abonner et reçoivent dès leur sortie à chaque fois le livre. Et donc nous, c'est clair que derrière, c'est une sécurité économique incroyable, parce que ça, on voit venir en fait dès le début de l'année économique, quoi. Et en même temps, on est convaincu aussi que c'est une manière d'appréhender le livre qui est intéressante, dans le sens où des personnes qui vont s'abonner n'auraient peut-être choisi que un ou deux de nos livres en librairie comme ça, en flânant, et là vont découvrir finalement d'autres choses. Et donc il y a vraiment un principe de curiosité qui est aussi chouette là-dedans. Et alors il y a aussi un point qui est quand même important. Donc on est très proche des librairies, et notre but, c'est pas de squeezer les librairies, et donc le but, c'est bien de travailler sur les deux. Mais justement, ce principe-là fait que ce sont pas forcément des livres que les gens seraient allés acheter en librairie, mais ils le reçoivent en abonnement, et donc du coup ils découvrent autre chose. Et donc c'est un programme qui, nous en tout cas, nous aide beaucoup et nous permet aussi aujourd'hui de nous stabiliser économiquement, quoi.